Chazam Yashem Alechem Kihyu, Veore Chem Tovim Shanim Neemim. Nous poursuivons notre étude de Parashat Korach. Et Zenu Beshem Adonai Ose Shamaim Baharet. Dans les Svarim Akdoshim, dans le Midrash, c'est mentionné aussi dans le Zohar, il apparaît que Korach, Chachamim nous disent que Korach, il a été Holek sur Torah Shebealpe. Et en effet, on remarque que dans l'expression que Korach emploie, qui est rapportée dans les Chazal, et Korach affirme que Moshe, il a nommé, il s'est autoproclamé, il a pris sa fonction, il a placé Aaron, et tout ce qu'il a fait, il a fait de sa propre initiative. Et la preuve que Korach veut apporter, c'est que la contestation qu'il propose, la preuve de ça, qu'il a raison, c'est l'histoire de la Mezouza et l'histoire du Talit. Alors, c'est, Korach affirme que c'est illogique, que si il y a lieu de mettre une Mezouza à la porte d'une maison où on habite, dans un lieu qui est rempli de Sfarim, Baït Malé Sfarim, a priori, il n'est pas nécessaire, la logique voudrait, qu'il n'est pas nécessaire de mettre un petit CFR à la porte de la maison. De même, si l'essentiel, affirme Korach, que du tzitzit, c'est le fil bleu azur, le techelet. Et si tout le talit est techelet, alors il n'est pas nécessaire non plus de mettre un tzitzit à ce vêtement. Et donc, c'est de cette manière-là, il vient, il interroge Moshe avec son talit kulotechelet, ou avec sa mezouza. Et Moshe lui dit non, il faut malgré tout mettre une mezouza. Donc, ici, il y a ici une discussion halachique. Mahloket halachique, les chahora, a priori, en apparence. Et du fait de la force de sa logique, il conteste la véracité des affirmations de Moshe. Et il dit, Moshe, tu dis cela de ta propre initiative, de toi-même. Akadosh Baruch Hu, il ne t'a pas dit ça. Donc en fait, il remet en cause la raison, la parole de Moshe, la transmission de Moshe. Et si on analyse la discussion telle qu'elle est rapportée dans les Chazal, il semble bien que c'est une mahloquette du Beit HaMidrash. Donc, ils ne sont pas dans le Beit HaMidrash, ils sont en contestation. Mais le fond de la discussion, c'est une discussion halakhique. Et il y a une remise en cause de Torah Shebe'al Peh. C'est ce que nous disent les Svarim. Ce qui semble sortir de la discussion, de la manière, dans la forme, moins dans le fond, mais plus dans la forme de la discussion, c'est que Korach conteste les Chahorah, la transmission de Torah Shebe'al Peh. Et c'est ça le fond de la mahloket. La Torah Shebe'al Peh ne peut se s'épanouir, ne peut se développer, ne peut percer la halakha à jour que du fait de la mahloket. À partir du moment où il y a contestation des avis, opposition, une koucha, alors on est obligé de trouver un tiroute. Si quelqu'un n'a pas de questions, il ne risque pas de trouver une solution ou bien d'avoir des réponses. Alors, le texte, tous les textes, toutes les paroles sont sujets à analyse. Alors, c'est ça le sens même de la Torah. Alors, on analyse. Et on a une question. Donc il y a ici une difficulté, une svara, on a une logique différente. Il faut absolument y trouver une réponse. L'erreur de Korach, c'est de dire une logique, il fait un raisonnement, et il s'oppose à Moshe. Et il pose la question à Moshe. Selon mon raisonnement, dans ces cas, les cas qui sont cités, la maison et le talit, il n'est pas nécessaire de mettre ni une mezouza, ni un tzitzit. C'est l'expression, ça, c'est le développement de la logique. Et là, Moshe lui dit non, tu te trompes. Il faut malgré tout mettre une mezouza et mettre un tzitzit. Donc, est-ce que la discussion avec ça, la discussion est close? Est-ce qu'on a fini l'histoire? Les Chahorah, c'est là que commence la difficulté. En quoi Korach aurait dû poursuivre le raisonnement et parvenir à s'interroger? En quoi je me trompe? Où est mon erreur? Comment répondre et justifier la halakha prononcée par Moshe? Et c'est sur ce point, Chazal nous dit que Korach a été holek al Torah shebealpe. Et c'est ça le fond de la mahloket. C'est ça l'idée de la mahloket. La mahloket, la Torah shebealpe, elle permet l'union du peuple, en fait. Chazal nous dit, mahloket lishei lishem shamayim sofa litkayem. Mahloket sheina lishem shamayim, en sofa litkayem. Donc la mahloket, elle est éphémère. C'est une dispute, une discussion et qui passe, qui ne laisse pas de traces, qui ne va pas perdurer. Pourquoi? Parce que la vérité est dite, l'erreur est consommée et l'affaire est réglée. Alors que si on a une mahloket bet shemay ou bet hillel, alors dans la mahloket halachique classique, qui est dans le sens du bet hamidrash, alors de cette mahloket-là va... La mahloket va perdurer parce que les fruits de la mahloket vont permettre de faire jaillir la lumière. Et Korach, dans son opposition à Moshe, il conteste, il s'attaque à ce point-là. Et la mahloket va permettre, la Gemara elle dit dans Kiddushin que le maître et l'élève, le père et le fils, quand ils étudient, ils s'opposent, ils se combattent, ils croisent le fer. Parce que chacun affirme ou propose une idée qui n'est pas acceptée par l'autre. Et de cette confrontation, on arrive à établir, à faire jaillir la lumière. Comme dit Rabbeinu Ha'ari, la Torah est comparée au Egoz qui a quatre clipotes, qui a quatre écorces, et au fur et à mesure des questions, des réponses, des attaques, etc., on brise les écorces, et on les retire et on fait jaillir la lumière. Donc c'est ça la finalité. Et Korach s'est arrêté en milieu du chemin. Et c'est en cela qu'il conteste la Torah Shebealpé. Il s'oppose à la Torah Shebealpé, quelque part. Tel que c'est mentionné dans les Chazal. Et il faut ajouter que la Torah Shebealpé, c'est ça qui unit. Alors, à la fin de la discussion, il est dit qu'à la fin de la discussion entre le père et le fils, le maître et l'élève, les chavérim qui étudient, qui s'opposent, qui crient, qui s'attaquent les uns les autres dans le Beit HaMidrash, à la fin, tout le monde est d'accord, on arrive à solutionner le problème et la concorde va résider parmi eux. Ahava, sofa ahava. La fin, c'est les gens, ils savent, chacun sait que si le Havrutan avait, la Gemara raconte que quand Resh Lakish il est niftar, on a apporté à Rabbi Yochanan Chaver qui confortait tout ce qu'il disait. Il lui a dit, c'est pas une étude. Avec Resh Lakish, je me posais des couchottes et je trouvais des réponses. Donc, de la couchotte, je suis obligé de trouver la réponse. Et de cette réponse, grâce à la coucha, à l'opposition de mon chaver, j'arrive à aller au-delà, à repousser les limites et trouver des svarotes et faire jaillir la lumière. Et donc il y a un épanouissement grâce à ça. Et le shalom réside. Le shalom va résider parce qu'on va pouvoir faire jaillir la lumière à la fin de cette étude-là. Comme tout cela est mentionné dans la Gemara, dans Kiddushin. Chazal nous dit que cette idée de contester, d'atteindre, de porter atteinte à la Torah Shebealpé, c'est quelque part de l'hérésie. C'est, il a été pris par un esprit, un rouar de minute. C'est ce qu'il va se passer à l'époque du deuxième temple, avec les comme il s'est mentionné dans les Pirkei Avot, Antignosh Issocho, à son époque, il avait deux élèves qui ont tourné, qui se sont écartés, qui ont porté atteinte à Torah Shabbat Alpé, les Sdoukim et les Baitoussim, etc. Donc cette idée de porter atteinte à la transmission, on a une question, on a une kushia. Et on pense que la kushia, elle est tellement forte que ce que dit le maître est faux. Donc le maître, il invente. Ça, ce n'est pas le Derech HaTorah. Derech HaTorah, c'est j'ai une kushia et je dois retrouver une solution, une réponse. La question n'est pas la réponse. Il y a une histoire qu'on raconte à ce sujet de Rav Chaim de Brisk. Il y avait un intellectuel, entre guillemets, qui est venu le voir et qui s'était déjà un peu écarté des pratiques de la tradition et qui a dit à Rav Chaim, Rebbe, j'ai beaucoup de kushiot. J'ai beaucoup de kushiot sur la Emouna, sur les pratiques, etc. Et Rav Chaim n'a pas tenu compte de ce qu'il a dit, il n'a pas voulu entendre ses questions et il n'a pas essayé de le convaincre, de lui donner des réponses. Donc le gars est parti tel qu'il est venu. Les élèves ont dit après à Rav Chaim, il dit comment ce bonhomme-là, il avait des couchiottes sur la Emouna et tu n'as même pas écouté ce qu'il avait à dire. Et Rav Chaim, avec son intelligence, il a dit, ce type-là, il n'a pas des couchiottes, il a des réponses. C'est-à-dire que lui, il a des ta'avot et il veut s'écarter de la pratique, il veut se permettre toutes sortes de transgressions, et alors qu'il ne peut pas le faire naturellement. Donc il a été éduqué dans la pratique des mitzvot. Alors il a quelque part un remords. Donc il a besoin de trouver des justificatifs pour pouvoir s'écarter. Donc les couchiottes qu'il a, qu'il prétend avoir, ne sont pas des couchiottes, ce sont des réponses. Et qu'il dit, Rabbi, il dit, moi je ne peux pas donner des réponses à des réponses. Je peux donner des réponses à des couchiottes. Et ce type-là, il n'a pas des questions, il a des réponses. Donc si on a les Baitoussim, ils sont arrivés à des conclusions du fait de leurs questions qui étaient des réponses. Alors que il y a des questions. On ne met pas de côté les questions. Et d'Afka, il faut avoir des questions. Et quand on a des questions, il faut essayer de trouver des réponses. Et si on n'a pas de réponse, alors c'est pas grave. On va, avec le temps, on peut parvenir. Mais rester tout le temps dans l'humilité ne pas affirmer avoir trouvé la vérité absolue du fait de notre intelligence particulière. Parce que chacun va penser qu'il est particulièrement intelligent. Et ça, c'est l'erreur. Ça, quelque part, c'est l'erreur de Korah. Donc, que Chazal insiste sur cette mahloket l'Eshem Shamay. Quelle est l'idée, quel est le vecteur de la mahloket? Pourquoi j'ai les couchottes? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que les couchottes, c'est pour approfondir ma compréhension? Ou bien c'est pour les couchottes, avec les couchottes, je m'arrête d'aller au-delà? Ça, c'est la première. Et c'est ça, Béhémet, la scission, la fracture, la cassure qu'il y a eu dans le peuple à l'époque de Korach et qu'on risque, qu'on retrouve avec les sectes qui sont apparus à l'époque du Bayit Sheni, du deuxième temple. Et de ce fait-là, la mahloket, elle est terrible. Parce que la mahloket, c'est le piroud, et c'est quoi Hatoum'a. Le concept de la Kedusha, c'est l'union. C'est que les éléments s'associent, s'attachent les uns aux autres, se soudent, s'emboîtent les uns aux autres. La Kusha, le Tirout, etc. Mais si la Kusha et le Tirout sont opposés, ne sont pas attachés, C'est la kushia. La kushia, c'est les rigueurs. Et la réponse est les bontés. Si la bonté ne vient pas atténuer, adoucir les rigueurs, alors le monde est en fracture. Il y a une fracture, et c'est ça l'ouverture de Vativtahare, cette piya, Vativlaot. C'est ça l'idée. Et la réparation que Moshe avait proposée, c'est de faire la kétorette. Seulement, dans cette kétorette-là, il y a un vrai problème. Est-ce que on peut faire kétorette? Cette kétorette-là, quel din elle avait? Est-ce qu'elle avait un din? Généralement, on fait la kétorette dans le Beit HaMikdash, une le matin et une le soir, mais c'est Korban Tzibour. Donc le Kohen fait au nom de Klal Israël, de l'ensemble du peuple. Et là, on va avoir 250 qui vont faire chacun sa kétorette. Donc une kétorette individuelle. Mais ça n'existe pas une kétorette individuelle. Au nom de quoi vont-ils faire cette kétorette individuelle? Ça, l'idée, et la kétorette, quand on analyse le processus, l'idée profonde de la kétorette, c'est que les différents éléments qui constituent l'encens, ils vont être écrasés jusqu'à ne plus disparaître les uns dans les autres. Et c'est la globalité des éléments qui composent la kétorette qui va donner l'odeur. Donc, ça revient à dire que les éléments qui composent disparaissent pour former un corps. Et ce corps-là, il est tellement puissant qu'il élève une fumée et une odeur extraordinaire. C'est ça la valeur de la kétorette. Et ça n'a pas fonctionné, puisque chacun était séparé dans son idée. Chacun avait une idée particulière. C'est pour ça que Razel dit, « Mahloket, c'est le chien, Korach, Ve'adatot. » En réalité, lui, ils étaient en mahloket entre eux. Ils étaient divisés entre eux. Et plus tard, après que la catastrophe s'est produite, alors Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe, après que, alors il va leur dire de prendre des bâtons. Il dit, va y d'abord Hashem et Moshe les morts, d'abord el béni Israël, mais kach meitam maté les bêtes av. Mais elle connaissait, donc que chaque tribu, que chaque prince donne un bâton. C'est Massar Matot. It ish et shemo, tirtov al maté. Chacun en écrira son nom sur son bâton. Mais tchem Aaron, tirtov al maté Lévi. Et sur la tribu de Lévi, tu mets le nom de Aaron. Qui maté hal de roche bet avotam. Alors qu'il les place, Beoel Moed, Yifna et Dout. Et veaya, aish, asher, efhar, bo maté ou ifrach. Donc l'homme qui aura été choisi, le bâton va fleurir. Alors qu'est-ce qu'il a fleuri? Vaidaber Moshe el Bnei Israël vaitnu elav kol nesi'em matel nesi'ahad. Donc ils ont donné leur bâton. Et juste après, il est dit, vayanach Moshe et amatot lifnei Hashem be'ohel ha'edut. Donc il a placé les bâtons devant le ohel ha'edut. Vayimahara vayavo Moshe. Mais il n'est pas rare maté à Aaron, les bêtes Lévi. Voilà que le bâton de Aaron, il a fleuri. Voyez ses ferrach, voyez ses tis, voyez gmol chez Kedim. Et il a non seulement fait un bourgeon, une fleur, un bourgeon, mais aussi des fruits. Et quels fruits? C'est des amandes chez Kedim. La question se pose dans les Farshim, pourquoi le bâton de Aaron a produit des amandes? Quel est le sens de ce chez Kedim? Alors, Am Israël est comparé avec plusieurs arbres, avec plusieurs fruits. Alors, il est comparé avec le rimon, et les rinates, et les rimon dans Shirachirim, ou bien égos. Mais là, on a choisi chez Kedim un fruit qui n'est jamais mentionné comme étant celui qui symbolise Israël. Et donc, c'est la question qui est mentionnée dans les Sfarim. Alors nous disent les Mfarshim, il est dit, il nous dit le Rav, on n'a jamais trouvé Israël qui est comparé à Shkedim, aux amandes. Il allait faire, au contraire, Nimshelu l'Arimoni et Gozim, comme il a dit, Kefela Arimon Rakater, El Ginat et Goz Yarati. Alors la question se pose, si on est comparé à Egos ou à Rimon, pourquoi, pourquoi avoir choisi le shaked? Alors nous dit le Hari, le shaked fait référence à la rigueur absolue. La rigueur, le din. Alors parce que le mot shaked a valeur numérique de 404. Alors c'est quoi 404? C'est le Shem Elohim, il vaut 86. Et quand on le remplit avec des yud, Aleph c'est 111, Lamed c'est 74, He c'est 15, Mem c'est 80. Donc on obtient 300. Donc on a 300 et le nom lui-même, Elohim, vaut 86. 386. Il manque 18 pour arriver à 404. Donc il y a le Miloui. Il y a 13 dans ce schéma-là, quand on remplit le schéma Elohim, on a 13 lettres. Et on a les 5 lettres du schéma Elohim lui-même. Donc ça fait 18. Donc on a Kiminyan Shaked. Et c'est ça ce qu'il est dit au sujet de la vision de Yirmiyahu. Au début de la prophétie de Jérémie, il est dit « Ma taro Yirmiyahu ?» Il dit « Ma quel shaked aniroé ?» Quand il va lui annoncer la destruction, il lui dit « Que vois-tu ?» Il lui dit « Je vois un bâton d'amandier. » Il dit « Tu as bien vu ?» Et taftalirot, tu as bien vu ?» Qui choquait Ani Aldevarila Asoto. Je m'empresse d'accomplir cela. Et là-bas, dans la destruction du temple, il dit que Akash Bokhu a avancé la destruction de 2 ans. Donc le terme Shaked indique la rapidité de la rigueur, que comment la sanction va s'abattre avec rigueur, certes, mais elle va être accélérée. La sanction va venir immédiatement. La rapidité de la sanction. C'est ça le sens, kol haholek ala keuna, c'est ça ce qu'il arrive. C'est la mahloket. La mahloket, elle fait en sorte que la sanction est accélérée et la rigueur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohésion. Il y a une cassure. C'est ça l'idée du bâton qui a produit ce fruit de shaked. Pour nous enseigner la gravité de la mahloquette. Il faut accepter, chacun doit accepter qu'il y a une hiérarchie dans le monde, qu'il y a une structure et que la droite ne peut pas passer à gauche et que la gauche ne peut pas passer à droite, que chacun a sa place. Et comme nous l'avons déjà dit au nom du Ramchal, que vouloir prendre la place de l'autre, on ne peut prendre la place qui nous est réservée. Si quelque chose m'est réservé, nul n'y touchera. Un adam nogia ben mache mukhan la havero kemlonima. Il peut pas toucher même pas l'épaisseur d'un cheveu. Et ça, c'est l'idée fondamentale de la structure de Am Israël. Et c'est accepter cette cohésion, accepter la cohésion. Faire la cohésion, c'est la midda. Et Chazal qualifie cette midda et attribue cette midda à Aaron. C'est ça qui fait le shalom. L'omatsa kadosh baruch hu keli mahazik beracha et la shalom. Et on va voir plus tard, un peu plus loin dans la paracha, la mitzvah de Trouma, de prélever la Trouma. Alors, quand on a une récolte de céréales, on doit prélever la trouma. Il n'y a pas de quantité fixe dans la trouma. Un grain de blé peut acquitter. Alors on prélève la trouma et on donne au Kohen. Chazal, on dit, c'est 2%. On donne 2%. La mida moyenne, c'est 2%, un cinquantième. Après de cela, on prélève 10%, on donne au Lévi. Et le Lévi lui-même va prélever de ce qu'il a reçu 10%, traumat maaser, ou maaser bina maaser, et il donnera au Kohen. Donc on voit qu'il y a ici une structure. Il y a une conjugaison des éléments. On va donner au Kohen, de telle sorte que la bracha va résider dans le reste de la récolte. En vérité, tant que l'on n'a pas effectué les prélèvements, la récolte qui est le bas, qui est ramassée, c'est la bracha, elle est inconsommable, elle n'est pas accessible. Donc il faut prélever, il faut donner une part au Kohen qui est midat, et le peu que l'on donne fait référence au keter. Donc on va donner au Kohen une mida avec générosité, mais on donne la mida qui est marginée, 1, 5, 2, 2% au Kohen, de telle sorte qu'on est directement lié à lui. Puis on donne au Lévi. Alors on va apaiser le Lévi, il est midatadine. Donc on va lui aussi donner, mais lui-même doit s'attacher au Kohen de telle sorte qu'il apaise, qu'il atténue ses rigueurs. Alors nous remarquons que ce système-là, il est un système harmonieux. Les éléments sont emboîtés les uns aux autres. Et ça, dans le Zohar, dans les Tikkunim, le Zohar explique ce concept de l'idée essentielle de cette de Trouma, Maaser Mina Maaser, comme une conjugaison des éléments de telle sorte que le système est attaché, les éléments sont attachés, emboîtés les uns aux autres, de telle sorte que la Kiddusha puisse résider, la Bracha puisse résider. Il y a une cohésion, et c'est l'idée fondamentale que l'on doit retirer de cette paracha de Korah, qui est de faire en sorte de vivre dans l'apaisement. Tout celui qui n'est pas bien dans sa peau, il faut, à travers Torah ou Mitzvot, trouver sa place et l'apaisement dans l'accomplissement de ce que nous sommes, accepter ce que nous sommes et être en cohésion avec les autres. Nul ne peut vivre séparé. Et si on se sépare, c'est le chaked qui va prendre le dessus. C'est la klipa veut séparer. C'est le olam apirud, ainsi que l'a dit Aman Idia Hashverosh, ils sont individualisés, chacun pour soi. Et s'il y a chacun pour soi, alors Aman il peut faire ce qu'il veut. Le contraire, c'est que quand nous sommes unis, chacun à sa place, chacun en cohésion avec l'autre, en acceptant la dimension ou le niveau que l'on a, chacun à sa place, à ce moment-là, l'omatsa kadosh baruch hu keli marzik beracha et la shalom. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.